Chapitre 2. Le lendemain, quand Robert sortit de sa chambre, le soleil déjà haut chauffait les touffes de réséda semées en cordon le long de la façade au midi. Par devant, dans l'allée toute bourdonnante et traversée de rayons d'or par le vol des abeilles, Thérèse se promenait, prête à partir. Elle avait mis une robe grise de voyage, une voilette blanche, un chapeau rond orné d'un piquet de coquelicots. Elle allait à pas relevés et au-dessus de sa tête, l'ombrelle qu'elle tenait ouverte, inclinée, rasant l'épaule, tournait comme un petit moulin. Quand Thérèse entendit M. de Kersol descendre en se hâtant l'escalier. « En retard, mon parrain !» lui cria-t-elle. « 8h30, mon père est déjà rendu au musée. Moi, j'ai eu le temps de cueillir 2 corbeilles de roses que je vais envoyer pour l'adoration. Comment avez-vous dormi ?»«
Trop bien, comme vous voyez, » répondit Robert en paraissant sur le seuil de la porte.
« Moi, divinement, » dit Thérèse. Mais presque aussitôt, elle poussa un petit cri de surprise. « Ah, mon parrain, je ne m'étonne plus que vous soyez en retard. Êtes-vous beau ?»«
Bah, bah !» dit en riant M. de Kersol, immobile sur la margelle d'ardoise étincelante de soleil. « Que me trouvez-vous d'extraordinaire ?»«
Ceci d'abord, » dit Thérèse en désignant du doigt l'épingle de cravate, un minuscule cheveu arabe en or ciselé. « Elle est très jolie, d'ailleurs. » Mais vous ne l'avez jamais porté ici. On ne me trompe pas, vous savez. Et puis, ce chapeau neuf, tout cela pour les loriots du bois de Lorette.
Robert, content d'être si vite découvert, prit la main que Thérèse lui tendait et la serrant entre les siennes. Non, mon enfant, pas pour les loriots, pour vous.
Oh,
oui, pour vos 17 ans, à qui je veux faire honneur. Que dirait-on si, à côté d'une grande jeune fille comme vous, « car vous voilà grande, ma filleule. On apercevait un parrain négligé. » Quelque chose d'ému, un frisson de plaisir et de reconnaissance passa sur le visage de Thérèse.
« Eh bien, vous voyez, » dit-elle, « c'est absolument comme mon dessus de clavier dont vous vous moquiez hier soir. Ce que vous venez de faire là, c'est très inutile, car nous ne rencontrerons personne, mais je trouve ça charmant. »
Elle se recula de 2 pas, considéra un instant M. de Kersol, son chapeau rond luisant, sa veste à larges boutons de nacre, ses gants, sa canne à pomme d'or, et avec un petit geste comme un salut de la main.
Mais tout à fait votre air de colonel.
Rien ne flattait davantage l'ancien officier de chasseur que cette appellation dont le qualifiaient quelquefois les passants ou le conducteur d'omnibus. Un mot qu'il voulut dire, une exclamation d'amitié, ou l'ordre du départ, resta dans sa moustache. Elle savait trop bien le chemin de son cœur, cette Thérèse. Et Robert était comme beaucoup de soldats, quand le cœur lui battait, il n'avait plus que des gestes. Il leva donc sa canne et se mit à marcher. La boîte verte lui pendait dans le dos.
« Si vous voulez, » dit Thérèse en réglant son pas sur le sien, « nous rentrerons par le faubourg. »«
Pourquoi faire, mignonne ?»«
Pour prévenir mon petit commissionnaire habituel. Je vous ai dit que j'avais cueilli. »«
Oh oui, Jean Malestroit. Il a grandi, le mioche. Oui, je l'ai vu l'autre jour sur le seuil de sa porte. »«
Oh, si gentil !» fit Thérèse.
Tous deux furent bientôt dans la route qui montait à droite et s'enfonçait dans la campagne. À peine 2 ou 3 fermes au milieu de champs d'artichauts ou des plantations de pépinières. Les grillons, toutes sortes d'insectes invisibles qui chantent à l'entrée de leur tour, commençaient à longue plainte des jours chauds. On voyait au bord des fossés le luisant de l'herbe qui remue. Thérèse causait des détails de la vie quotidienne, 1000 petites choses indifférentes, pour tous autres qu'elle et Robert. Un passant qui l'aurait entendu se serait demandé pourquoi l'autre riait, pourquoi il s'animait et s'épanouissait, sans raison apparente, sans qu'il eût rien dit que d'ordinaire, même sans qu'elle parlât. Lorsqu'aux barrières des champs, elle s'arrêtait un peu et, toute droite, l'œil aux horizons, les lèvres entr'ouvertes, inspirait à pleine poitrine l'odeur de moissons mûres qui venait rasant le sol. Et cependant que c'était bon cette promenade avec l'enfant qu'il avait élevé, que c'était doux ce bavardage sans suite et sans fin, où l'on ne quittait le présent que pour parler du passé, leurs deux domaines communs. Pas un mot inquiétant, pas une note nouvelle dont il pût s'alarmer. « Vous n'avez pas fini votre légende d'hier, lui dit-elle. J'ai laissé la marquise Gisèle assiégée et la jupe en grise bien maigre. Vous disiez, alors il arriva. Je voudrais savoir ce qui est arrivé. »
« Oh non, ma mignonne, répondit gaiement Robert, le temps de mes histoires est passé.
Vous ne m'en raconterez plus ?
Non, je vous en lirai, des contes des grands auteurs, écrits pour les grandes jeunes filles.
Oh, que c'est aimable, je n'aurais pas osé vous le dire.
Vous le désiriez ?
Oui, sans doute un peu, mais qu'en faites-vous pour deviner ce que je désire ?
Je pense à vous.
Et moi aussi, mon parrain, je pense à vous et j'ai le cœur touché de vos attentions. Bien touché, je vous assure.
Comme je la retrouve, songeait Robert, comme la voilà reconquise. Est-elle charmante ce matin et jeune, voyez-la. Et ils allaient tous deux légèrement. Bientôt on prit les chemins de traverse. Ils étaient pleins de fleurs, pleins de vie, pleins de fuites d'ailes effarouchées. On se baissait à chaque instant pour une étoile blanche ou jaune devinée sous le couvert des ronces. La boîte s'emplissait d'herbes. Celle qui n'était pas rare était au moins jolie. Thérèse avait des goûts qu'il fallait contenter. Ainsi l'avait résolu M. de Kérédol. Il cueillait tout ce qu'elle voulait. « Bon, l'herboriste pas pour moi, songeait-il. Je fauche pour elle. » Et les pieds dans la boue traîtresse des creux des fossés ou la tête dans les épines, ils se mouillaient, se piquaient et s'échauffaient avec allégresse.
« Je regrette la tenue de colonel, » disait Thérèse.
« Moi, je ne regrette rien, si vous êtes contente. »«
Mais ravie. »
« Et savez-vous, » disait-il, « que nous voici tout à l'heure en pleine famille d'orchidées. » Orchis abeille, orchis mouche, orchis araignée.
Où donc, parrain ?
Mais dans le bleu, bois, parbleu. Chose curieuse, quand il fut rendu sous la futaie, large et longue tout au plus comme un champ de moyenne taille, vestige d'ancienne forêt, ni l'un ni l'autre ne songeait plus aux orchidées. Ils étaient las d'avoir tant marché, tant ri et du soleil qui faisait danser l'air à la hauteur des yeux. Le dôme des feuilles gardait un reste de rosée évaporée, avec le lourd parfum qui monte du sol des bois. À peine eut-il foulé la mousse et senti sur ses épaules la caresse des premières ombres, M. de Kérédol perdit sa belle ardeur, chercha la place la plus fraîche, sans une mouchetture d'or, la trouva au bord d'un fossé d'eau courante et s'assit en s'épongeant le front. Thérèse tourna un peu pour ne pas avoir l'air aussi fatiguée que son parrain, affecta de s'intéresser à des fougères, eut une phrase banale sur la douceur de l'ombre, et finalement s'assit à trois pas de lui. Elle arrangea les plis de sa robe à petits coups songeurs et se mit à regarder devant elle. Il en faisait autant de son côté, mais tandis qu'il était seulement silencieux, elle se sentait peu à peu envahie par une mélancolie et un malaise d'âme grandissant, le revers de l'excessive gaieté qu'elle avait eue. Cela vient ainsi, tout jeune qu'on soit. Et Thérèse eut un soupir qui vit se retourner Robert. Il la considéra un instant et remarqua le changement qui s'était produit en si peu de temps dans la physionomie de sa filleule. Sous la voilette relevée, les yeux de Thérèse, grands ouverts, sérieux et comme voilés d'une pensée qu'il ne pouvait lire, fixaient un point de l'horizon. Était-ce le moulin, là-bas, de l'autre côté de la Loire, gros comme un hanneton qui secoue ses élytres, ou les traînées pâles des champs de colza, rayant les pentes, ou le nuage roulé, immobile dans l'océan de lumière,
où pas un souffle courait? Non, sans doute. Non, la bouche avait un pli léger, et tout le visage, cette lueur égale, et comme cette transparence qu'il prend lorsqu'aucun objet du dehors ne l'impressionne plus, et qu'il reflète seulement un songe intime du cœur. « À quoi rêvez-vous ? » demanda M. de Kérédol. « Moi, à rien, » répondit-elle sans bouger. Robert jugea politique d'opérer une diversion, se pencha en avant au-dessus du courant qui filait rapide et bleu d'acier parmi les cressons, les acanthes, toute une végétation réfugiée là contre l'ardeur de l'été, et cueillit une tige couverte d'un corymbe de fleurs blanches. « Reine des prés, » dit-il, « Spiraea ulmaria, famille des rosacées, voyez, Thérèse, est-elle élégante ?» Thérèse fit à la plante l'aumône d'un regard distrait. « Dites-moi, » demanda-t-elle en rabaissant sa voilette, « Maman s'est bien mariée à 18 ans, n'est-ce pas ?»«
Oui, 18 ans, » répondit rapidement Robert. Oui, je crois, Thérèse, que vous n'avez jamais étudié la reine des prés. Tenez, la feuille est ailée, duvetée en dessous, à folioles ovales. J'ai lu quelque part qu'en infusant les fleurs dans du vin, on obtient le bouquet du fameux Malvoisie. » Et il observait sur le visage de la jeune fille, maintenant tournée vers lui, l'effet de cette pointe habile. Elle n'en parut pas touchée.
« Vraiment, » dit-elle, « mais 18 ans. Mon parrain, savez-vous que je les aurai l'année prochaine? Oh, ce serait très drôle si... »
Qu'est-ce qui serait drôle, mon enfant?
Oh non, pas drôle précisément, je veux dire, reprit-elle. Son sourire éclatant, toute sa jeunesse enjouée reparut sur ses joues, sur ses lèvres, dans ses yeux, qu'animait un éclair de soleil venu on ne sait d'où. Je veux dire que peut-être... « Vous comprenez bien, peut-être, quelqu'un pourrait penser à moi aussi. »« Eh bien, cela me fait rire malgré moi. »
Pour le coup, Robert laissa échapper la reine des prés, qui roula comme une ombrelle sur la mousse et tomba dans le courant. « C'est à cela que vous pensiez ?» dit-il en se reculant, pour s'appuyer au tronc d'un arbre et la voix un peu sourde. Elle répondit en montrant ses dents blanches et en le fixant de ses yeux bleus étonnés.
« Mais oui,
mais à propos de rien, comme ça ?»«
Non, de rien du tout. Cela me vient surtout quand je regarde devant moi, très loin. »«
Ah, très loin, devant vous ?»«
Oui, n'est-ce pas que c'est curieux ?»
Elle prit un air grave, appuya un coude sur un de ses genoux et remuant sa jolie tête...
« Voyez-vous, parrain, je songe quelquefois au mari que j'épouserai. »«
Alors vous avez fait votre choix ?»«
Oh non, d'une façon très générale. Je voudrais épouser quelqu'un qui aurait été malheureux. »«
Oh, ça se rencontre aisément, Thérèse. »«
Oui, quelqu'un de jeune qui aurait souffert. »«
Même jeune, cela peut se trouver, mon enfant. » Bon, je ne comprends pas. » Elle hésita un instant, leva les yeux vers les chênes.
« Mais pour le consoler, » dit-elle.
Et cela fut dit avec tant de naïveté, tant de tendresse voilée, que le pauvre Robert sentit la morsure d'une larme au coin de ses paupières. Il eut envie de s'écrier. « Oh, mais si vous avez soif de consoler, Thérèse, ne cherchez pas au loin, comprenez. » Restez pour nous trois. Chassez les rêves qui déjà si petites vous éloignent. Ayez pitié de nous, ne songez plus. » Mais il eut peur de paraître égoïste, peur aussi de l'inconnu qui se révélait à lui. Ô mystère d'une âme! N'allait-il point la froisser, la repousser lorsqu'elle s'ouvrait si ingénument? Fallait-il lui laisser voir toute l'appréhension qu'un mot pareil jetait en lui? Non, pas cela, surtout pas cela. L'esprit de Thérèse eut travaillé sur cette crainte. Mieux valait prendre la chose légèrement, comme une boutade, sans conséquence, essayer de rire. Et il essaya, et rien ne lui vint aux lèvres que ce mot qui ne voulait pas dire « Restez, restez !»
Alors il se baissa, faisant mine de ramasser sa canne devant lui, et resta courbé un peu plus de temps qu'il était nécessaire, le temps de composer ses traits. Quand il sentit s'effacer les deux sillons qui s'étaient tout à coup creusés au coin de sa bouche, « Ma petite Thérèse, dit-il, nous ferions bien de partir. Je crois que vous voulez rentrer par le faubourg. » « Oui, répondit-elle distraitement, pour mes roses. » Il s'était levé en parlant et, à demi détourné, tirait ses manchettes avec un soin qui devait cacher un reste d'émotion. Thérèse ne le remarqua pas. Elle se redressa paresseusement et fixa une fois encore l'horizon là-bas, où le nuage immobile dormait, tout fulgurant de lumière au-dessus des collines mauves. Il fallut que Robert répétât « Eh bien, Thérèse, venez-vous » Ils sortirent de la futaie côte à côte et prirent un autre chemin qui ramenait en demi-cercle à la ville et aboutissait bien au-delà des pépinières vers le milieu du faubourg. Thérèse, déjà reposée, rieuse comme auparavant, multipliait et variait les questions, tentait les mêmes sujets que tout à l'heure avaient intéressé Robert. Et lui ne répondait pas toujours, et quand il le faisait, c'était d'un mot, avec effort. « Mais qu'avez-vous donc ? » demanda-t-elle. « Un peu de fatigue, mignonne, cela passera. » Hélas, il avait bien autre chose qu'un peu de lassitude. Son ciel intérieur troublé, et l'inquiétude de la veille maintenant fixée dans l'âme, il avait peur de la vie. Et celle qui avait causé le mal ne s'en doutait pas. Elle tâchait d'être aimable et vivante pour deux. Aucune autre idée ne semblait plus l'occuper. Son rôle de consolatrice, son rêve sentimental de tout à l'heure, elle n'y pensait plus. C'était Robert qui songeait à cela maintenant et qui se disait « Il y a des signes manifestes. J'espère qu'il n'est pas trop tard, non, mais il est grand temps, grand temps. » Ce qui le tourmentait le plus, c'est qu'il commençait à douter de l'efficacité des moyens qu'il emploierait. Attention, lecture, tendresse d'amis, qu'était-ce à côté des visions qui passent au-dessus de l'horizon bleu, quand on regarde devant soi, bien loin? Quand ils furent arrivés au point culminant du chemin, avant de descendre la dernière pente qui, à 100 mètres de là, entrait dans la banlieue, Thérèse ralentit le pas et releva son ombrelle pour mieux voir. C'était un paysage assez médiocre et banal, au jour d'hiver, mais transfiguré à cette heure dans la gloire du grand soleil. Une campagne coupée de jardins, plate et cultivée, sans une rivière, sans un arbre, et autour la ville, comme une découpure sans profondeur, comme une dentelle inégale, d'un blanc bleuâtre avec des fumées d'usines traînantes, et tellement criblée de lumière que le sommet des tours, des clochers, des parties hautes des toits semblait à demi fondu dans l'air. « C'est un slan !» dit Thérèse. Monsieur de Kérédol prit son lorgnon et jeta un regard rapide, lui aussi de ce côté. Mais avec quelle disposition différente d'esprit! Sous ses paupières, bridées par l'éclat du jour, ce fut une sorte de défi qui passa, une pensée de colère contre cette ville d'où sortirait peut-être le danger qui menacerait son bonheur, qui détruirait le repos du logis couché là-bas derrière eux, dans la verdure de ces grands arbres. Thérèse et lui continuèrent à marcher, presque sans rien se dire, jusqu'à une maison du faubourg, pauvre et basse, où l'on accédait par un corridor voûté, commun avec la maison voisine. Robert s'arrêta. « Je vous attends, » dit-il. La jeune fille était déjà entrée dans le couloir et frappait à la porte d'une chambre à gauche. Là demeurait M. Malestroit, charpentier en bateau, tandis qu'en face, ainsi que l'indiquait un écriteau de bois blanc fleuri d'osier tressé, habitait M. Colibri, vannier. Ne recevant pas de réponse, car la mère était sans doute en course dans le quartier, Thérèse traversa le corridor dans toute sa longueur et déboucha au grand soleil dans le jardin où elle entendait des voix. C'étaient les cinq enfants du charpentier qui jouaient, assis en rond, tête nue, sur un tas de sable. Jean, Yvonnette, Germain, Gustave et Pascal. Elle les connaissait bien. L'aîné même, un gamin de 12 ans, était son filleul. Et comme elle aimait les enfants, Thérèse une minute observa cela. Il ne la voyait pas. « Je propose de jouer à Adam et Ève, » dit l'aîné en levant sa figure espiègle et rousselée. « Moi, je ferai Adam. Toi, Yvonnette, tu seras Ève. Et l'ange pour les chasser du paradis, c'est Gustave. »« Oh non, non, » dit Germain, « je suis plus fort, c'est moi. » Mais la petite secouait ses boucles blondes. « Tu veux pas, Yvonnette ?»«
Non. »«
Et pourquoi donc, mademoiselle ?»«
Oui, pourquoi, pourquoi ?»
Et tous les frères étaient de l'avis du chef. Mais Yvonnette continuait à secouer la tête. Elle était prête de pleurer. Jean devina qu'elle devait avoir une raison grave pour ne pas faire Ève.
« Autre chose alors, » dit-il.
Et sans plus d'explication, saisissant un rameau encore orné de 2 ou 3 feuilles, il le posa au-dessus de la tête de Pascal, qui riait déjà d'être regardé par ses frères, et l'y maintint une seconde. « Dessous ?» demanda-t-il. Et ils se mirent à rire tous ensemble, de si bon cœur que leur gaieté gagna Thérèse. Ils riaient, les mains trempées dans le sable qu'ils jetaient en l'air pour mieux marquer l'exubérance de leur joie. Et le rameau passa sur la tête de Gustave, puis sur celle d'Yvonnette, et ce furent des nouvelles demandes d'argent et des fusées de notes claires qui avaient de sens que pour les petits. « Mais que peut-il bien leur vendre ?» se dit Thérèse. Elle avança de 2 ou 3 pas dans le pauvre terrain, tout resserré entre ses palissades noires. « Mais que vends-tu là ? » demanda-t-elle. 5 paires d'yeux flambants, effarés, se retournèrent vers elle, et aussitôt se baissèrent ensemble vers le tas de sable qui crépitait sous le soleil. Les 5 petits malestoirs se poussaient le coude pour s'engager à répondre. Et ce fut Jean, naturellement, qui prit la parole, et encore confus, glissant les yeux jusqu'au bas de la robe de Thérèse. « Très drôle, » dit à demi-voix. « Je vends de l'ombre. » Puis il se leva, et tandis que les 4 autres, décontenancés et privés de leur chef, s'enfuyait jusqu'à la palissade, il s'approcha de Thérèse, tenant encore son rameau, et penchant sa petite tête ronde aux cheveux ras que le soleil dorait par place. « Tu veux bien me faire une commission, mon filleul ?» dit Thérèse en se baissant pour l'embrasser. « Oui, mademoiselle, » dit Jean, qui tendit un peu le front. « Eh bien, tu vas venir à la maison tout à l'heure. »«
Oui, mademoiselle. »
Et tu prendras 2 grands paniers de roses qu'on te donnera, un dans chaque main. Tu les renverseras pas.
Oh non, mademoiselle.
Et tu les apporteras à l'église, dans la chapelle de la Sainte Vierge, où tu sers la messe.
Oui, mademoiselle.
Elle passa la main sur la joue de l'enfant. Au revoir, mon enfant. Lui, la voyant s'en aller, se redressa tout à fait. Et quand Thérèse fut sur le point de disparaître, tout rassuré, l'œil vivant bien ouvert, se disant qu'après tout, cette jeune fille était une amie, il cria de sa voix claire « Bonsoir, mademoiselle !» Thérèse se retourna et vit qu'il était debout, la main levée, fier de lui, et quand dans le fond, là-bas, 4 petits sarraux bleus faisaient la révérence. 10 minutes plus tard, la jeune fille ouvrait la porte du logis des pépinières et s'élançait vers sa mère qui la guettait, inquiète déjà, au coin de la maison. Et Robert, qui la suivait, la main droite à demi gantée, retrouvant sa belle humeur pour que Madame Maldon ne pût se douter de rien, refoulant en lui-même ce qui lui restait d'inquiétude et d'ennui, disait « Oh, une promenade charmante, Geneviève, une charmante !»«
Oh, je viens de voir le petit balestroit, » reprit Thérèse en enlevant l'épingle de son chapeau. « Il avait peur de moi, un amour !»
Chapitre 3. Le déjeuner fut gai, comme de coutume. M. Maldon était satisfait d'un envoi de Corneille à Patrouge, qu'il venait de recevoir de Belle-Île en mer. Sa femme s'épanouissait au récit que Thérèse faisait de l'excursion du matin, et Thérèse, en effet, mise en verve, racontait les plus petits incidents de la route, taquinait son oncle, qui pour un vieil Africain, disait-elle, ne s'était pas bravement comporté sous le soleil de juillet, et n'admettait qu'un seul détail, la conversation de 5 minutes dans les bois, quand elle regardait l'horizon et que lui cueillait des rennes des prés. Robert le remarqua. Quand il se leva de table, M. Maldon, par habitude, donna un coup de brosse à son panama, fit le tour du jardin, inspecta ses tombes à melons, entra dans le réduit où, sur des planches torréfiées par la chaleur, des graines séchaient mêlées à des papillons morts, et perdit en récréations utiles du même genre le commencement de l'après-midi. Vers 2 heures, il annonça l'intention de retourner au musée. « Si vous le permettez, dit Thérèse, je vous accompagnerai. J'ai promis d'aller faire des guirlandes pour l'adoration qui a lieu demain. Vous me laisserez à l'église. » Le père et la fille partirent donc ensemble. Au pas nerveux de Maldon, la distance fut vite franchie. Thérèse monta les marches du perron de l'église. « À bientôt, ma chérie, te fatigue pas trop. Ni vous, toi surtout. » Il se retournait en marchant pour la regarder. Thérèse entra dans la vaste nef qui retentissait du bruit des marteaux, des scies reniant les planches et des commandements du vicaire alignant par taille aux deux côtés de l'autel majeur des pots de laurier rose et des branches de pin. Elle fit une courte prière devant la statue de la Sainte Vierge, constata d'un coup d'œil que les roses avaient bien été apportées à l'endroit convenu, et s'apprêtait à sortir de son banc pour aller rejoindre une autre jeune fille occupée à ranger dans un coin les banderoles de gaz, quand le geste d'une femme l'arrêta. C'était une vieille domestique retirée dans le faubourg aux environs de Malestroit et que Thérèse connaissait. Elle se hâtait, grosse et courte, bousculait les chaises, son bonnet de travers, la bouche à demi ouverte, avec la nouvelle d'un malheur dans les yeux. « Oh, mademoiselle, dit-elle en se penchant avant même d'arriver jusqu'à Thérèse, vous savez donc pas ?»«
Quoi donc ?»«
Ben, le petit Balestroit. »«
Lequel ?»«
Mais Jean, mademoiselle, un enfant si mignon. »« Eh bien, qu'y a-t-il ?»«
Tombé dans le faubourg. »« Il jouait à la toupée et tombé sous les roues d'un camion, écrasé. »«
Oh !» dit Thérèse en portant la main à ses yeux pour en chasser l'affreuse vision. « C'est pas possible. Non, il n'est pas possible que ce soit lui. Il n'y a pas plus de 2 heures qu'il est venu ici. »«
Hélas, si, mademoiselle, dit la femme fondant en larmes. Il est mort, le pauvre petit. Je l'ai vu quand on l'a rapporté. Sa tête saignait là, mademoiselle, à la tempe. Il est maintenant sur son lit. Je suis venu vous le dire. » Vous pouvez bien y aller, tout le monde y a dans le quartier. C'est joli déjà comme un paradis chez les Malestroits.
Thérèse sortit sans rien répondre, mais si pâle, si haletante, que la vieille femme, venue leur messagère, tout émue devant cette douleur d'enfant, inquiète même, cherchait à rejoindre la jeune fille sur les dalles de la nef et répétait
« Voyons, mademoiselle, faut pas se tourner le sang comme ça. » « Faut se faire une raison. Attendez-moi donc. »
Thérèse n'écoutait pas. Elle traversa la rue. Les Malestroits demeuraient à 50 pas plus loin. Et elle entra dans la grande salle pauvre à gauche, ouverte à tout venant par le deuil. Il était là, le petit marchand d'ombre. On l'avait couché au milieu de la pièce, sur un lit qui devait être celui des parents, la tête touchant le mur du fond, soulevée et tournée vers l'unique fenêtre en face. Toute la lumière semblait se concentrer et se poser sur ce visage décoloré, mais charmant encore. Le front à demi couvert par le bandeau qui cachait la blessure, et les mèches d'or inégales au-dessus, luisant comme au grand soleil du jardin. On eût dit d'un convalescent affaibli par un long mal et qui dort et qui va s'éveiller. Les deux mains de l'innocent, les deux mains courtes auxquelles la toupie venait d'échapper, pieusement jointes, retenaient le chapelet de première communion. Le drap tombait jusqu'à terre, un drap blanc, très fin, qui avait dû être prêté. Et à droite et à gauche, sur le linge sans plis, ô tendresse de l'âme du peuple, ô inspiration charmante des pauvres qui s'entrèment, les frères, les sœurs, les petits amis du faubourg avaient, avec une épingle, attaché des images. De chaque côté, en rangs irréguliers, on voyait un saint Jean-Baptiste avec son agneau, des anges, de jolies vierges bleues et blanches aux yeux relevés, un enfant Jésus bénissant le monde avec son doigt rose, et jusqu'à un soldat dont un coup de ciseau avait coupé le sabre, un soldat d'Épinal qu'on avait dû lui acheter pour sa dernière croix. Elle était là aussi, la croix d'argent ornée d'un ruban rouge, sur une pelote blanche, au pied du lit, attestant que la mort avait pris un des plus sages, un de ceux qui promettaient et qu'on citait pour modèle à l'école. Pauvre petit, comme tout cela naïvement racontait sa vie, ses humbles journées d'écolier qui ne savait que lire, jouer aux soldats et prier Dieu. Thérèse, un instant immobile sur le seuil, dans la muette contemplation du chagrin, s'avança toute droite vers le lit, sans un regard pour les gens assemblés là et qui l'observaient. Elle ne voyait que le petit Jean. Elle vint à lui, elle se pencha doucement et embrassa ses pauvres yeux morts de l'enfant, comme elle n'avait jamais fait, avec toute sa pitié, avec toute sa foi, avec toute son âme, qui se fondit dans ce baiser. Et Thérèse se laissa glisser à genoux, la tête sur le drap orné d'images. Elle demeura ainsi quelque temps, secouée par les sanglots auxquels répondaient, dans le coin d'ombre de la chambre là-bas, les soupirs étouffés de plusieurs femmes, moins jeunes qu'elle, qui pleuraient depuis plus longtemps. Puis elle se leva et, à travers le voile de ses larmes, chercha la mère. Elle l'aperçut de l'autre côté du lit, près de la muraille. Madame Malestroit, toute menue et fanée, était assise sur une chaise basse, les mains sur les genoux, serrant un mouchoir qu'elle ne portait plus à ses yeux taris. Autour d'elle, trois ou quatre femmes se tenaient debout, des voisines qui avaient épuisé les courtes consolations des mots et ne subsistaient plus que de leur présence, tournant seulement la tête de temps en temps ou murmurant une exclamation douloureuse, la même depuis 2 heures, pour bien montrer qu'elle pensait toujours à la même chose, comme la pauvre Malestroit. Une seule personne parlait à demi-voix, un vieux monsieur, épais dans sa redingote, la face large et rase, et qui disait avec une compassion vraie, retenant sa voix pour que sa parole entrât mieux dans cette âme meurtrie. « Allô, ma petite mère, c'est une épreuve, bien rude, oh oui, bien rude, mais n'est-il pas plus heureux là-haut? Il échappe à bien des misères. Un vrai ange qui n'a pas besoin compris pour lui. Tout le monde l'aimait. Moi, je l'aimais, je l'aimerais toujours, voyez-vous. » Et ces phrases espacées, prononcées lentement, tombaient une à une, comme un refrain pour endormir les peines sur la mer muette et accablée. Thérèse, passant près de lui, il s'inclina et, souriant, « Bonjour, monsieur l'official, » répondit-elle. Et passant la main sur les mains de madame Malestroit pour appeler son attention, « Ma pauvre femme, » dit-elle, « puisque j'étais sa marraine, j'ai là-bas des fleurs. Voulez-vous bien que je les lui donne ?» Au son de cette voix connue, la femme du charpentier ne bougea pas. Elle murmura seulement, « Oh oui, pour lui, tout ce qu'on pourra pour lui. » Thérèse dit quelques mots à l'oreille d'une des femmes qui partit aussitôt. Elle avait une de ces douces idées de jeune fille dont elle était coutumière. Dans le tiroir d'une table, elle trouva du fil et des aiguilles, se mit à genoux près du lit et, quand la femme fut de retour, apportant les 2 paniers de roses, merveilleusement belles et variées et destinées à l'église, on vit bien ce que Thérèse avait voulu dire. Elle prenait les fleurs, les assortissait, les encadrait d'un peu de feuillage, et d'un point de couture les assujettissait au drap. En moins d'un quart d'heure, car elle travaillait vite, tout un côté du lit fut fleuri de la sorte. La couche funèbre du petit Jean prenait un air de chapelle en fête. Et Thérèse se réjouissait à chaque feston d'avoir eu cette pensée. Pauvre petit Jean, joueur de toupie, elle ne l'avait jamais tant aimé. Comme elle allait commencer à orner le deuxième côté du drap, un jeune homme entra dans la chambre. Bien qu'il fût le plus proche voisin des Malestroits, le propriétaire du vieil hôtel qui courait de son ombre à leur logis, il semblait n'être jamais entré chez eux. Debout sur le seuil, un peu courbé à cause de sa haute taille, il hésita, cherchant à s'orienter parmi les gens qui se trouvaient là. Il aperçut enfin monsieur l'official, traversa la salle et le cercle des femmes s'ouvrit pour lui faire place. Le nouvel arrivant se trouva en face de madame Malestroit. Il était déjà très ému. Et quand il vit au-dessous de lui la mère abîmée dans la douleur, il se sentit vraiment malheureux, non pas d'être venu, mais de n'avoir aucune consolation à porter, de ne pas savoir comment exprimer sa sympathie à ce pauvre être misérable. Gêné aussi par le silence des gens qui se tenaient autour de lui et qu'il croyait motivé par cette visite inattendue. Il mit la main à sa poche, se courba et dit assez bas, intimidé, « Madame Malestroit, je suis venu aussi quand j'ai su l'affreux malheur. Nous sommes voisins si proches. » Et entre les mains de la femme, il glissa une grosse pièce d'argent. Au contact du métal froid, la mère releva la tête. Elle fixa un instant les yeux sur le jeune homme, et celui-ci, à travers le feu sombre dont ils étaient pleins, put discerner beaucoup de surprise et un peu de fierté blessée. Cependant, elle ne le témoigna pas, et par un instinct délicat de son âme populaire, elle accepta. « Venez-vous, monsieur Claude, » dit monsieur l'official en se penchant, « moi je sors. » Le jeune homme, content d'être ainsi tiré d'embarras, suivit monsieur l'official. Il fallait passer devant le lit de l'enfant. Monsieur l'official s'arrêta au pied et s'inclina. Ses lèvres remuèrent. Thérèse, agenouillée, se redressa et cambra sa taille. Et Claude, qui n'avait pas aperçu la jeune fille en entrant, la découvrit tout à coup. « Monsieur l'official, dit-elle, je n'aurai pas assez de roses. Pourriez-vous faire prévenir mon parrain ?»«
Très bien, chère demoiselle, j'y vais, » repartit le bonhomme en dodelinant sa tête blanche.
« Pas vous-même, je suppose.
Au contraire, moi-même.
« Oh, c'est bien ce que vous faites là !» Elle ne répondit pas directement. « Oui, je les avais cueillis pour l'adoration, » fit-elle, « et vous voyez ?»
Elle tourna vers le petit mort d'un mouvement plein de grâce, son visage rose où errait un souvenir navré. Et ce sourire mêlait je ne sais quoi de maternel à son doux air de vierge.
« Pauvre petit ami, » dit-elle.
Son âme était dans ces trois mots. Claude remarqua que Thérèse était jeune, jolie, vêtue de gris et que la pitié la faisait exquise. Il passa outre, Thérèse ne sembla pas le voir. À peine dans la rue, monsieur l'official se détourna. Sa face, pleine et ronde, n'offrait plus qu'une trace légère d'émotion. « Bon jeune ami, dit-il, l'aumône était peut-être inutile. » Mais pour la visite, vous avez eu raison de le faire. Si proche voisin, des gens si éprouvés. Il prit Claude par un bouton de la jaquette. Et comme c'est touchant, ajouta-t-il. Ils se sont mis 20 familles de pauvres, peut-être, pour orner le lit de ce petit de 12 ans. Le drap est à l'un, la tête d'oreiller à l'autre, les images sont à tout le monde. Ah, la générosité, monsieur Claude, vertu des pauvres.
Mais cependant, balbutia Claude, encore très troublé de ce qu'il avait vu, il me semble que vous avez donné l'exemple.
Mais non, ils étaient là avant moi.
Vous n'avez pas tout observé. Allez, venez doucement, je vous prie, doucement. » Il attira Claude jusqu'à la fenêtre voisine, celle des Colibris. Madame Colibri, qui n'avait plus d'enfants chez elle depuis plusieurs années, avait offert l'hospitalité aux trois derniers de Malestroit, qui jouaient bruyamment autour d'elle, sans souci du frère mort. La chambre de la vieille, si propre d'ordinaire, était mise au pillage, et plus loin, dans le jardin qu'on apercevait par une seconde fenêtre en face, Yvonnette, devenue l'aînée, immobile et courbée sur elle-même, comme une enfant qui a beaucoup pleuré, causait avec le vanier. « Ne trouvez-vous pas cela admirable ?» demanda monsieur l'official, en ramenant Claude sur ses pas. « Allez, allez, jeune homme, le peuple est notre maître en charité !» Il s'arrêta bientôt devant l'hôtel de Claude. « Enchanté, mon voisin, dit-il, d'avoir eu le plaisir de causer avec vous. Cela ne m'arrive pas bien souvent. » « En effet, murmura Claude, les occasions. Peu pensez que nous demeurons porte à porte et je suis presque un inconnu pour vous. J'avais l'honneur de voir souvent madame votre mère autrefois, mais voilà, c'était une autre génération. Je suis trop vieux. » « Non, par exemple, je vous assure, monsieur, que j'ai eu plus d'un regret à votre endroit. » « Vraiment ?» dit monsieur l'official en lui tendant la main. « Eh bien, un autre jour, quand l'idée vous viendra d'entrer chez moi, j'en serai ravi. Si vieux qu'on soit, on a toujours un coin de jeunesse dans le cœur, voyez-vous. Pour le moment, j'ai à m'acquitter de la commission de mademoiselle Thérèse. C'est sacré. À l'honneur !» Il souleva prestement le bord de son chapeau et s'éloigna dans la direction de la banlieue. Claude examina un instant, avec la curiosité de l'explorateur qui vient de faire une découverte, la brosse rude et fournie, qui cernait d'un tour blanc la coiffe du haut de forme et le col trop large de la redingote montant et descendant en mesure sur le cou sanguin du bonhomme. Puis il rentra chez lui. Il habitait dans le faubourg entre la maison blanche de monsieur l'official à gauche et les deux réduits très humbles des Malestroits et des Colibris à droite. Un vieil hôtel isolé, sans doute autrefois retraite de quelques magistrats pacifiques, lentement rejointe et enveloppée par les constructions nouvelles. Habiter n'est pas cependant tout à fait exact. Claude Revel passait 8 mois sur 12 à la campagne, dans le domaine dont la mort prématurée de ses parents l'avait laissé maître, et, sauf en hiver, ne faisait à la ville que de rares apparitions. C'était un grand jeune homme de 27 ans, brun de cheveux et brun de visage, qui ressemblait à plusieurs de ses aïeux, propriétaires, avant lui, de la terre de la Coudraie. S'il l'avait eu dans toute sa personne, dans sa tenue un peu sanglée, dans le frottement fréquent de ses sourcils, dans ses moustaches retombantes à la gauloise, un léger accent ou un souvenir, si l'on veut, d'officier de réserve. La note est assez fréquente aujourd'hui. Mais s'il venait à sourire, à parler ou seulement à saluer un ami, tout ce masque tombait. Les sourcils détendus laissaient mieux voir deux yeux verts, bons et lumineux, et sous les moustaches farouches, la bouche apparaissait nullement railleuse et nullement dure. On devinait alors, sous l'écorce empruntée, ce qu'il était en réalité, un cœur excellent, une imagination ordinaire, auquel s'ajoutait, par un effet de nature ou bien de solitude, une petite pointe d'humour et d'observation. En ce moment, tout occupé de ce qui venait de lui arriver, car la moindre émotion faisait événement dans sa vie calme, il ne songea pas même à monter dans ses appartements, et accrochant son chapeau à un bois de cerf, il s'assit sur le divan du vestibule, au fond de la cage de l'escalier, en face du poêle en faïence, croisa les jambes et alluma un cigare. Sa pensée suivait d'abord monsieur l'official. Depuis sa petite enfance, Claude se rappelait à peine avoir causé 2 ou 3 fois avec lui. Le peu qu'il en savait datait déjà des années lointaines où, dans son imagination épeurée, ce voisin jouait des rôles d'ogre. On prétendait que monsieur l'official avait été pharmacien. Mais le bonhomme était le seul à en être bien sûr, car au temps même de son commerce, on le rencontrait toujours, paraît-il, sous les arbres de la promenade, heureux, placide, étonnamment renseigné sur toutes les histoires locales et causeur de carrière. Sa plus grosse affaire, en tout cas, ne durait plus que 3 semaines à présent, et c'était ses vendanges, qu'il conduisait lui-même, qu'il surveillait avec une volupté de propriétaire et de gourmet. Levé dès 4 heures, haut et droit, tout le jour, parmi les vignerons courbés, et le soir, assis au milieu des ouvriers, qui tournaient la mariée, grisés par les effluves du mou, donnant le ton des divers joyeux et des chansons qui ne cessaient pas plus que le ruissellement clair et du pressoir. Les 49 autres semaines de l'année, il menait une existence assez mystérieuse. Sa maison, presque toujours close du côté de la rue, était silencieuse comme un couvent. Le matin, il y venait quelques personnes, hommes et femmes, pauvres gens pour la plupart. L'après-midi, monsieur l'official sortait. Claude n'en savait pas davantage. Il songea donc à son voisin, mais pas longtemps. Une autre image vint l'en distraire, celle de la jolie inconnue agenouillée près du lit de l'enfant. Elle lui apparaissait très nette et très plaisante. Insensiblement même, elle se dégagea de l'appareil de deuil qui l'enveloppait. Ce ne fut plus qu'une jeune fille très jeune, avec un panier de roses près d'elle et des yeux levés pleins de pitié. Mademoiselle Thérèse, mais comment n'en avait-il jamais vu, lui qui connaissait, comme on connaît l'armorial, à la couleur de leur chapeau, de leur robe ou de leur ruban, toutes les héritières de la ville. Il en était si bien occupé que le signal du dîner, un coup de timbre qui résonnait à l'infini le long des rampes des bois de l'escalier, ni l'entrée dans la salle à manger glaciale, ni la silhouette immobile de Justine attendant au même endroit traditionnel de l'appartement que son maître eut achevé le premier service, ne modifièrent le cours de ses pensées. Il eut de vagues sourires qu'on eût pu croire adressés aux éclats d'un bouchon de carafe traversé d'un rayon de jour, ou à la fumée qui montait en spirale de la soupière pour se perdre dans la mousseline de la suspension. Et quand Justine s'approcha, maigre et digne, une assiette à la main, « Justine, demanda-t-il, est-ce que les Malestroits ont des parents riches ?»« Oh, tout ce qu'ils sont de Malestroits, répondit-elle. C'est riche à peu près comme moi, qui n'ai rien. Monsieur Claude y a donc été ?»« Oui, Justine, et j'ai remarqué là une jeune fille. Tu ne sais pas son nom ?» La vieille servante, qui avait toujours eu pour la vertu de son jeune maître une sollicitude un peu farouche, le regarda d'un air défiant. « Blonde, continua-t-il, avec du rouge à son chapeau, tu sais pas ?»« Oh, s'il fallait connaître à présent toutes les jeunesses qui courent les rues » fit-elle avec un mouvement d'humeur en changeant l'assiette de Claude. « Mais ne courez pas, celle-là, Justine. Elle attachait des piquets de roses et de feuillage au drap du petit Jean. Monsieur l'official lui a parlé. » Mais ce sera peut-être une demoiselle du bureau de bienfaisance, grommela Justine. Elle emporta la soupière, leva les yeux vers le portrait de son ancienne maîtresse, ce qui était sa façon de les lever au ciel, et s'en alla d'un pas glissant vers son royaume. Ma pauvre Justine, songea Claude, je n'ai jamais si bien saisi ton complet défaut de poésie et de sentimentalité. « T'es fermé à l'idéal, bien que tu aies le cœur tendre. Mais non, cette jeune fille n'est pas venue là au nom d'une administration. Elle a été conduite par sa piété, et par sa piété peut-être aussi par le souvenir de quelque ancienne charité faite aux parents. Rien n'attache comme d'avoir donné. Elle était aimable, cette enfant. La douceur de ses yeux qui ne m'ont pas regardé, de cette voix qui ne m'a pas parlé, mais demeurait présente. Oh, je demanderai à monsieur l'official. » Comme il achevait ce monologue, Justine rentra. Elle avait 2 mouvements, en toute occasion, dont le premier était hargneux et le second repentant et attendri. Elle revint donc, posa quelque chose sur la table et dit:
Après ça, votre demoiselle, ça pourrait bien être mademoiselle Thérèse Maldon, une petite dont le père en paille pour le musée. Ouais, je me rappelle qu'elle a été marraine chez les Malestroits après que monsieur l'officiel a eu passé par là. Car vous savez, ça n'a pas toujours été droit dans la maison. Enfin, suffit, il faut pas dire du mal des gens. Claude n'insista pas, malgré le mystère qui enveloppait les révélations de Justine. En poussant plus loin ses questions, il aurait éveillé les soupçons de la vieille servante, dont il avait, en bon célibataire, une certaine crainte révérentielle. Après le dîner, au lieu de sortir comme il avait coutume de le faire, il monta dans sa chambre qui ouvrait sur les jardins. Il n'éprouvait aucun besoin de marche ou de distraction. Quelque chose d'ému subsistait en lui, et l'attrait aussi de ce monde des petites gens, de la misère, de la mort même, qu'il avait côtoyé longtemps sans le savoir, et qui était révélé à lui tout d'un coup, il ne savait comment. Mais quelle force avait conduit là, chez ses voisins en deuil? Il se mit à regarder par la fenêtre vers la droite les deux bandes de terre bien étroites accolées à sa large cour pavée. La plus proche était celle des Malestroits, pillée, pelée par le pied des enfants, sauf un angle tout au fond où poussait une gerbe de chrysanthèmes autour d'un pigeonnier. La mer avait le goût de cette verdure pâle qui s'étoilait en automne de grandes fleurs brunes. On la voyait souvent, à pareille heure, traverser le jardin, menue et encore un peu jolie, avec un pichet d'eau qu'elle portait à ses chrysanthèmes, tandis que son mari se promenait, athlétique et rude, en fumant. Ils s'étaient aimés, paraît-il. On racontait que Malestroit l'avait enlevé quand il revint de son tour de France, bronzé comme un Catalan et superbe comme un jeune dieu. Et c'était cela, sans doute, qu'avait voulu dire Justine. Pauvres gens. Ce soir, ils ne sont pas sortis. La maison est close. Une lame mince de lumière, glissant par la fenêtre de leur porte, se mêle à la lueur de la lune montante. Au-delà, personne non plus, derrière la palissade. C'est le domaine du vanier, tout vert et frais, celui-là. Ombragé d'un peuplier à larges feuilles et rempli de bottes d'osier, debout et serrées les unes contre les autres, la pointe encore duvetée, et qui lui donne un certain air de forêt. Tout le jour, hiver comme été, c'est là que travaille Colibri, un vieux très maigre, assis au pied de l'arbre, près de la cuve, où trempent des baguettes blanches. Quant aux maisons, elles sont toutes deux pareilles, bien basse, ouvrant sur le faubourg, avec un toit long du côté du jardin, un de ces toits sur lesquels la pluie s'égouttit des demi-journées et qu'affectionnent les pigeons, dont il y a des volées de part et d'autre. Les pigeons sont même la cause de querelles fréquentes entre le vanier et le charpentier en bateau. Comment voulez-vous que les pigeons de Malestroit n'aillent pas quelquefois manger le grain avec ceux de Colibri? Ils vivent sans cesse vis-à-vis les uns des autres. Le pigeonnier des uns, posé sur une perche au bout du jardin de Malestroit, regarde précisément les deux boîtes pendues au-dessus de la porte de Colibri. Entre eux, compterait-on 10 coups d'aile? Ce ne sont pas les reproches de leur maître qui empêcheront les affinités naturelles de se manifester, ni le superbe culbutant du charpentier de courtiser la fine pigeonne Bizet du tresseur d'osier. Et parfois, on entend des phrases terribles. « Oh, c'est encore vous qui attirez mon culbutant, monsieur Colibri. Je tordrai le cou à votre Bizette. » Dieu sait que le pauvre Colibri est absolument innocent dans l'affaire, mais il a peur de son ombre. Alors il ne se défend pas, et quand il voit que les choses se gâtent, il disparaît derrière son taillis. Pas de dispute ce soir. Le deuil a mis entre eux sa paix profonde. La petite Yvonnette doit dormir auprès de la mère Colibri. Il fait tout nuit. Claude regardait. Il se rappelait ces détails et d'autres qui, lentement dans sa pensée,
chantait un refrain triste. Cela ressemblait au son de flûte, sorti on ne sait d'où, qui suivent le voyageur dans les nuits tièdes. Et la curiosité aidant, il voulut retourner un instant chez les Malestroits. Il s'arrêta, sans entrer, sur le seuil de la porte que le continuel pèlerinage des gens du quartier avait tenue ouverte. Deux flambeaux, sur deux chaises de jonc, brûlaient à gauche et à droite du petit Jean. Le visage de l'enfant, plus pâle encore, demeurait doux et calme. Dans l'ombre, un berceau où dormait, sans souci de la mort, le dernier-né de la famille. Dans l'ombre aussi, formant des groupes à peine distincts, cernés de lumière douteuse, des parents, des amis accourus après la journée de travail, la mère abîmée sur l'épaule de Madame Colibri, et puis, dans la lumière des cierges près du lit, le père colossal, debout, les yeux fixés sur ce drap blanc, d'où sortait la tête menue de son fils. De vagues étincelles d'or et d'argent, brunies, s'échappaient de la croix et des images piquées sur le linge. Les guirlandes de fleurs luisaient plus vaguement encore et mêlaient leur parfum à l'odeur de la cire brûlée. Un recueillement sacré, le respect effrayé du mystère, la fascination de ce visage de 12 ans, que tous ils contemplaient, les témoignages multipliés d'attentions populaires et naïves emblissaient cette chambre d'une atmosphère pénétrante. Mais Thérèse n'était plus là.